France Inter. La comédienne et réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi a suivi les cours de théâtre Jean Darnel au Théâtre de l'Atelier, puis ceux de Blanche Salan au Centre Américain. Elle fut ensuite choisie parmi 2400 candidats pour la dernière promotion de l'école des Amandiers de Nanterre, dirigée par Pierre Roman et Patrice Chéreau, ce qu'elle retrace dans son film Les Amandiers. Elle collabore de nombreuses fois avec Chéreau, notamment dans sa mise en scène de Platonov de Tchekhov, qu'il adaptera pour le cinéma sous le titre Hôtel de France. Notre invitée jouera aussi dans le film Ceux qui m'aiment prendront le train et avec la troupe des Amandiers dans le téléfilm L'Amoureuse de Jacques Doyon. C'est dans Paulette, la pauvre petite milliardaire de Claude Confortès qu'elle fait sa première apparition au cinéma. Son interprétation dans Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbossa, très beau film, lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Elle développe alors une carrière internationale, surtout partagée entre la France et l'Italie, en étant dirigée par Mimmo Calopresti, Marco Bellocchio, Noémie Lvovsky, François Ozon, Bruno Dumont, Karine Tardieu, Cédric Jiménez, mais aussi par des réalisateurs américains ou britanniques comme Steven Spielberg ou Ridley Scott, ce qui en jette, avouons-le. Elle écrit, réalise et joue dans Il est plus facile pour un chameau, qui remporte le prix Louis de Luc du premier film, écrit avec Noémie Lvovsky, rejointe ensuite par Agnès de Sacy sur la majorité des films suivants, Actrice, Un château en Italie ou Les Estivants. Valeria Bruni-Tedeschi a aussi réalisé avec Yann Corridian le téléfilm Une jeune fille de 90 ans et adapté Les Trois Sœurs de Tchekhov pour le petit écran. Lauréate de multiples David Di Donatello de la meilleure actrice en Italie, elle interprète la grande comédienne italienne Eleonora Duse dans le film homonyme de Pietro Marcello. À la fin de la Première Guerre mondiale, celle que l'on surnomme la Divine, comme Sarah Bernhardt qu'elle fréquente, décide de remonter sur scène malgré l'âge et la maladie qui l'ont affaiblie. L'amante épisodique du poète et homme politique Gabriele D'Annunzio, mère par intermittence d'une fille aimante à la religiosité et à la morale rigide, continuera de se battre pour l'art et ses valeurs, envers et contre tous, Mussolini inclus. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure. Je crois que c'est la première fois que je dépasse de mon propre générique.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Valeria Bruni-Tedeschi. Bonsoir. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Le film de Kechiche.
Alors racontez, c'est la découverte que vous vouliez faire découvrir justement aux auditeurs.
Oui, j'ai beaucoup beaucoup aimé le film.
C'est Make to My Love, Canto Due, mais le troisième de la trilogie.
Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, j'ai pas vu le deuxième qui est pas sorti.
Intermezzo.
Je crois, voilà. Et celui-là, j'étais vraiment époustouflée par le désir qui parcourt le film, qui imbibe le film par les comédiens, les comédiennes, par l'action aussi, par le fait que c'est un film un tout petit peu différent de ces autres films qui, à un moment, ça devient un film d'action et aussi drôle. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Vous dites qu'en tant que comédienne ou en tant que réalisatrice, vous parlez toujours de vos obsessions. Quelles sont-elles ?
Mes obsessions, je ne sais plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mes enfants. Mais aujourd'hui, en général, oui, c'est les gens autour de moi, les gens que j'aime et l'amour. En général, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour dans toutes ses formes.
Donc, vous mettez l'amitié dedans.
Oui, l'amitié, les problèmes d'amitié, les problèmes amoureux, les problèmes avec les parents, les enfants, les relations, voilà, humaines.
Alors là, vous dites les problèmes à chaque fois, mais la joie aussi.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis un peu pleine de soucis. Mais oui, la joie. Et d'ailleurs, pour moi, ce métier de cinéma ou de théâtre, c'est la joie des rencontres. Parce que, en plus, les rencontres dans mon travail sont toujours très joyeuses. Là, la rencontre avec Pietro, c'est devenu un ami. Alors je me dis, je regarde en arrière, je me dis, si tout mon travail m'a permis de rencontrer des amis, et encore maintenant de rencontrer des nouveaux amis, c'est vraiment merveilleux. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier.
D'ailleurs, en parlant de rencontres, vous dites que vous avez besoin d'être amusée par les réalisateurs que vous rencontrez parce que vous vous ennuyez de plus en plus facilement.
Oui, enfin, pas amusée dans un sens de divertissement, mais j'ai besoin d'être...
Étonnée.
Étonnée, émerveillée, happée, interloquée par l'univers et la vision du monde du réalisateur ou de la réalisatrice ou du metteur en scène qui me propose quelque chose.
Est-ce que vous arrivez vous-même à vous surprendre ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, je pense que oui. Je pense que parfois des metteurs en scène m'obligent à me déplacer un petit peu. Par exemple, Karine Tardieu, elle m'a obligée à me déplacer un petit peu. Elle m'a contrainte, en fait. Elle m'a empêchée, elle m'a ligotée. Et du coup, ça m'a, ce qui s'est passé en moi, c'est ma surprise.
C'était l'attachement.
C'est dans l'attachement, oui. Ça m'a un peu. Voilà, quand on se déplace de ses habitudes, de ses zones de confort, on est surpris.
Vous dites que votre rôle dans l'attachement est un rôle assez introverti et qu'en fait tout le monde vous félicitait pour ça et que vous vous êtes rendu compte à ce moment que les gens, je vous cite, en avaient marre de vous voir extraverti.
Oui, n'en pouvaient plus de mes. Mais comme beaucoup de gens autour de moi, elles n'en pouvaient plus de mes gesticulations, de mes larmes, de mes rires, de mes un peu. Voilà, je suis italienne aussi. Peut-être en France, on est moins habitués à toute l'expression des émotions. Et donc, et je me suis rendu compte que les gens étaient soulagés d'un peu de silence.
Et vous ?
Et moi, non, moi, je n'étais pas très soulagée. Moi, j'étais assez frustrée et assez de mauvaise humeur parfois sur le tournage. Mais je sais, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude envers Karine.
Bah, c'est un très joli film en tout cas.
Oui, très.
Dans une interview qui date de 94, et j'aime bien citer de vieilles interviews parce que j'aime bien voir comment les gens ont évolué.
Et la voix qui change.
Oui, mais ça, ne vous inquiétez pas, on ne va pas l'entendre parce que c'est de la presse écrite.
Ah d'accord, ok.
Vous dites qu'il y a deux catégories d'acteurs, ceux qui veulent devenir des stars et ceux qui pratiquent la comédie comme une espèce de confession. Mmh. Et vous dites appartenir à cette catégorie-là. Alors je voulais savoir si c'était toujours le cas et ce que vous confessiez.
Ah oui, complètement. Je peux dire la même phrase exactement. Et je peux dire la même phrase aussi de la douze par rapport à Sarah Bernhardt, je crois. C'est-à-dire que vraiment, si on peut les définir toutes les deux, une est une star magnifique et époustouflante et charismatique, mais qui marche vers une carrière. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est plus dans un cheminement de confession et de... intérieur et en tout cas la confession est pour moi ce qui me fait l'endroit le plus profond pour moi dans ce métier, le plus important, ce qui me fait faire ce métier profondément, c'est le fait de me dévoiler, de me confesser.
Qu'est-ce que vous confessez ?
Au fond, je sais pas. Au fond, j'ai pas compris encore exactement qu'est-ce que je dois confesser, qu'est-ce que je dois dévoiler, mais j'ai la sensation dans la société, dans la vie normale, d'avoir un masque ou plusieurs masques, comme dit Pirandello, où l'on est sous le cento, mais il a plein de masques, selon les gens devant qui on est. Et devant une caméra ou sur une... je peux enlever le masque par moment, parce que c'est très beau les personnages qui ont des masques aussi. Mais ce moment où on retire le masque est un moment pour moi... presque qui a à voir avec la foi, vraiment très important.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Bon, de toute façon, ici, c'est pas une école comme les autres. En fait, c'est pas une école. Si, vous aurez des cours. Vous aurez des cours. On va même faire un stage, acteur studio à New York. Mais après, on montrera des pièces. On va même peut-être aller au Festival d'Avignon. On va peut-être même tourner des films. Mais ça, ce sera pour les 12 élèves qui auront la chance de rentrer dans l'école. Hein, c'est pas pour les 40. Ce qu'on va chercher pendant le stage, c'est pas un savoir-faire. Surtout pas de savoir-faire, ni des bons acteurs. Non. On cherche. Bref, on cherche.
C'est l'excellent Michel Esco qui joue le rôle de Pierre Roman dans votre film Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers.
Oui.
Et c'est un film qui revient sur votre expérience dans l'école des Amandiers, film dans lequel vous êtes interprétée par l'autre excellente actrice, Nadia Tereskiewicz. Vous l'avez coécrit avec Noémie Lvovsky et Agnès de Sacy. Comment est-ce que ça s'est passé, cette formation de petite équipe, et comment se passe l'écriture à deux ou à trois ?
Ben, nous, on a toujours travaillé comme ça, depuis Le Chameau. On a commencé à écrire avec Noémie, après elle m'a présenté Agnès. Après, parfois, Noémie, comme elle doit faire ses propres films, elle s'en va, donc je reste seule avec Agnès. Et comme ça, on fait un peu les chaises musicales. Mais on a trouvé une façon de se compléter, de se bousculer l'une l'autre, parce qu'il faut se bousculer. Et voilà, et c'est vraiment très joyeux. Et ça fait maintenant longtemps que ça, qu'on fait ça. Ça fait... Ça fait 10, 20, 25 ans.
Quel est le secret d'un amour qui dure ?
Eh bien, de se réconcilier quand on se dispute.
Eh bien, ça, c'est rassurant parce que souvent, c'est inévitable de les disputes.
Ouais, de croire toujours à la possibilité de la réconciliation.
Aux Amandiers, vous dites qu'il y avait Coltès qui venait boire un café à 10 mètres de vous, Barbara, Depardieu qui répétait Lily Passion, que vous croisiez Piccoli, Luc Bondy. Ouais. Quelles furent vos premières admirations ?
Jane Birkin, il y avait aussi... Oui, bah, moi, mon grande admiration, c'était Chéreau. C'était vraiment... je pense que j'étais amoureuse de lui.
Et beaucoup l'étaient, non ?
Ouais, beaucoup.
Il était très séducteur.
Très séduisant. Je sais pas, séducteur, mais très fascinant. Fascinant, plus que... Ouais. Voilà, et c'était vraiment, pour moi, le cœur de cet endroit. Il y avait Pierre aussi, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Et très intelligent aussi, avec ses yeux verts. Et puis, il y avait, j'étais aussi amoureuse à l'intérieur de l'école d'un garçon. Donc, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie qui circulait, beaucoup de... L'énergie érotique aussi, de feu, et de passion du théâtre, et de folie, et de drogue. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui circulaient.
Bah, vous dites d'ailleurs qu'une telle école pourrait plus exister aujourd'hui, et vous dites tant mieux, mais vous dites aussi que la liberté et la folie qu'il y avait ne pourront plus exister non plus.
Oui, c'est vrai. Bon, tant mieux par rapport, surtout par rapport à la drogue. Je pense que c'était vraiment catastrophique qu'on admette qu'il y ait de la drogue qui circule, mais à l'époque c'était les coutumes. Il faut aussi, c'est vraiment important, je trouve, de regarder chaque époque avec les yeux de l'époque, avec les codes de l'époque.
Et ce qu'on fait de plus en plus rarement.
Voilà. C'est vraiment, il faudrait vraiment qu'on pense à ça. Si on voit quelqu'un qui dans un film qui roule sans casque, à un moment où il n'y avait pas l'obligation de mettre un casque, on peut pas non plus, voilà, on ne devait pas mettre le casque. Maintenant, il faut mettre un casque. Voilà, à l'époque, un professeur pouvait prendre de la coke avec son élève, mais c'était catastrophique. Je pense que ça, même à l'époque, je trouvais que c'était qu'on était en danger. À part ça, je trouve que la liberté et on n'était pas carriériste. Je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus carriéristes. Ils sont beaucoup plus angoissés par leur carrière, par leur futur. Nous, on était fous. On voulait faire du théâtre, on voulait jouer, mais on n'était pas efficace dans notre carrière. On pouvait vraiment être incorrect et ne pas que se construire un futur.
Vous dites que ce que Chéreau vous a appris, entre autres, c'est qu'on donne des choses intéressantes quand on est déstabilisé. Et vous aimez aussi citer Barbara quand elle parlait de la chanson, mais applicable à tous les arts, appuyer tout doucement là où ça fait mal.
Oui, oui. Je trouve que c'est une phrase importante, mais qu'on peut... voilà, même dans la méthode de Strasberg, c'est quand même ça qu'on fait. On va essayer de trouver l'endroit qui est connecté à une douleur du passé.
Est-ce qu'il y a une part de masochisme dans cela ?
C'est très agréable.
Peut-être que c'est ça la
définition. Fais-moi mal, vas-y. Non, mais c'est très agréable de transformer la douleur en quelque chose pour les autres. Ça veut dire que c'est comme de l'alchimie, transformer le métal en or. Alors, si on est par exemple maladivement timide, et je vais dire à un acteur que sa timidité est magnifique, et que sa timidité, je la veux, donne-la-moi, alors la timidité devient de l'or. Alors que dans la vie normale, dehors, c'est un obstacle. C'est un handicap. Ou alors un acteur qui bafouillait. Et quand j'ai vu qu'il bafouillait, je trouvais que c'était merveilleux, alors que dans la vie, c'était un problème.
Est-ce que vous avez eu des choses comme ça qui vous ont servi dans le jeu et que vous avez ressenti comme des handicaps dehors ?
Ah, moi, je me sens très handicapée. Donc, tout ce que je... C'est ça que j'aime dans mon métier. C'est que j'ai l'impression que mes handicaps, mes... le fait que je ne me sens pas à la hauteur de la vie en général, eh ben, cette chose de ne pas se sentir à la hauteur, hop, dans un personnage éventuellement qui ne se sent pas à la hauteur... Eh ben, ça devient que je travaille bien. Donc, en fait, mes défauts et mes incapacités deviennent des qualités.
Alors, de quoi parle votre nouvelle pièce ?
De moi. C'est comment la vie est compliquée et de...
J'espère que c'est pas trop triste, quand même. C'est...
Vous écrivez ?
Oui, c'est mon travail.
C'est pas ton travail, c'est ton hobby. Ça s'appelle un hobby.
Je me sens très coupable. Je suis riche.
Combien ?
1 milliard.
De lire ?
Non, de francs.
Toi, t'as pas besoin de manger, toi, tu vis pas de ton travail.
Si, j'ai besoin de manger.
Vous savez ce que dit l'Évangile ? Il est plus facile pour un chameau.
Ça va ?
Je comprends pas ce que t'es venu faire.
Je passais par là.
Mais je déteste les surprises, elles me font pas plaisir à moi.
Et t'étais où, en Asie ?
Oui.
Et il ne voudrait plus voir Philippe. Tâchez d'être heureuse avec Pierre. Allez au café avec Pierre.
Ma mère, elle faisait les ménages, elle n'avait pas le temps de tromper son mari.
Elle avait peut-être pas envie.
Elle avait pas les moyens.
J'ai lu votre pièce. C'est un manque de fantaisie, c'est lourd. Pierre, tout ça se passe dans des cafés.
Non, mais c'est parce que j'ai remarqué que parfois les gens, ils vont dans des cafés.
Je devais faire le tour du monde. Je l'avais déjà fait. Dans l'autre sens. Ce qui est mieux d'ailleurs.
Mais je suis pas Dieu, moi, je suis moi. Moi, avec des jambes, des bras, un ventre, de la merde à l'intérieur, normal.
Valeria Bruni-Tedeschi, on entend la bande-annonce de votre film « Il est plus facile pour un chameau » qui emprunte son titre à une phrase de l'Évangile. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot « foi » et en Italie, à votre époque, tous les enfants étaient imbibés d'éducation religieuse. Ouais. Quel est votre rapport à la foi ou à la transcendance ?
Oui, on avait l'heure de religion. Comme l'heure de sport, l'heure de religion, c'est fini là. Mais mon rapport à la foi, ben, déjà c'est mon enfance, c'est aller à l'église le dimanche, faire la première communion, le catéchisme, l'heure de religion, tout ça, c'est comme des rituels, tout simplement, des rituels de la vie quotidienne. Au-delà du fait qu'on croit ou qu'on croit pas, on fait ça, on fait ces choses-là. Mais c'est un peu resté comme ça, c'est-à-dire que moi je ne crois pas tout le temps, mais je fais quand même. C'est-à-dire je fais quand même les gestes, je vais quand même dans les lieux, dans une église ou dans des lieux saints.
Les
parfois,
symboles.
Je ne me sens pas totalement connectée à la foi, mais en faisant les gestes, ça me connecte. On dit, si tu t'agenouilles, tu deviens humble. Voilà, parfois je m'agenouille, même si je ne sais pas pourquoi, et puis c'est pas mal de s'agenouiller.
Dans vos films, on passe souvent du rire aux larmes, et pour vous c'est très important de rire des choses tristes. Est-ce que vous riez facilement ? Parce que vous comparez même le rire à une bouteille d'oxygène qu'on vous met sous le nez.
Oui, c'est ce qu'on se dit toujours avec Noémie quand on écrit, avec Agnès, que vraiment qu'on ne peut pas... On ne peut pas imaginer avoir l'esprit de sérieux. On ne peut pas, parce qu'on étouffe quand on se prend au sérieux, si on se prend totalement... Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas d'aller au fond des choses, mais on a besoin de trouver quand même ce qui est... Oui, l'humour dans l'existence. Oui, l'humour dans l'existence, ça nous fait... Moi, comme spectatrice, par exemple, ça me fait comme un médicament d'arriver à rire dans un film de Woody Allen ou de... Je ne sais pas, Charlie Chaplin.
Vous dites que Woody Allen, c'est vraiment le remède, c'est mieux que le Xanax et tous les anxiolytiques qui existent.
Oui, oui, oui. Je pense que ces films, quand ils sortaient le mercredi, j'y allais et je savais que j'allais être revigorée.
Quand vous avez proposé...
C'est l'intelligence aussi qui est revigorante, l'intelligence.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que tous les grands auteurs dans la littérature ou tous les grands cinéastes, finalement, sont aussi profonds que drôles ? Parce que Bergman, c'est drôle.
Oui, complètement. Je ne sais pas si tous, peut-être, pas tous, je sais pas, hein, mais en tout cas, quelque chose de drôle, j'ai besoin, moi, pour en tout cas comme lectrice ou comme spectatrice, pour adhérer totalement, j'ai besoin de, oui, d'être reliée à un rire ou un sourire sur notre vie.
Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive.
Ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi.
Bisogna che tu impari a relazionarti con le altre ospiti.
Chi è? Una nuova.
Tentativo di suicidio in detenzione?
Te un po' di cazzi suoi mai.
Mi scusi a lei, la dottoressa?
Beatrice, porca erba.
Sto socializzando
qui. No, si sta impicciando. Avanti, per cortesia.
Valeria Bruni Tedeschi, vous riez en entendant la bande-annonce du film Folle de joie de Paolo Virzi, dans lequel vous jouez une maniaco-dépressive tendance nympho-mythomane qui fugue avec une ex-toxicomane en décapotable à travers la Toscane. Et vous dites au sujet de ce film: j'ai juste décidé d'envoyer mon surmoi en vacances, de voir ce que ça donnait si je me laissais aller, et c'est bon de congédier le flic qui fait la loi en nous. Et je voulais savoir s'il était souvent présent, ce flic, parce que quand vous avez fait tourner votre mère et que vous lui avez donné le rôle de la mère, justement, dont il est plus facile pour un chameau, vous dites: j'avais besoin de la permission, parce qu'elle joue un personnage un peu violent, et vous dites que vous êtes quelqu'un qui, finalement, a souvent besoin de la permission.
Oui, oui, j'ai besoin des permissions aussi de... C'est ce qu'a fait, avec, par exemple, Noémie, quand elle a lu une scène de... Je lui ai fait lire avant de faire le jeu. Elle m'a dit, là, il y a un film à faire et tu dois le faire. Donc, c'est une injonction positive. J'ai besoin de...
D'encouragement, de
regard, mais de phrases. C'est des phrases, c'est plus que des encouragements. C'est des phrases qui vont retentir en moi pour toujours. En tout cas, le policier intérieur est présent jour et nuit, de façon... épuisante.
Comment vous avez fait pour le congédier ?
Ah ben, je lui ai demandé, je fais...
La permission ?
Oui, j'ai fait une petite... je l'ai convoqué, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille en vacances, mais je l'ai vraiment dit, hein, et qu'après, qu'il fallait pas qu'il se soucie, qu'après il allait revenir. Donc il fallait pas qu'il s'inquiète. Parce que ça, c'est important. Si on demande, ou si on demande à son, par exemple, si je suis une gentille fille, disons, dans la vie, et que pour le personnage, je dois pas être gentille, je vais demander à ma gentille fille d'aller dehors. Mais il faut que je la rassure, que je lui dise qu'après, elle va revenir. Sinon, ça va être un problème.
Alors là, vous parlez de vacances. En parlant de vacances, un mot sur votre film Les Estivants. Il a été inspiré par le besoin de convoquer votre frère, qui est mort, et par un petit...
Un château en Italie, vous parlez? Ah oui, non, aussi
Les Estivants,
tous les deux.
Ouais. Il est un fantôme.
Et oui, oui, c'est vrai.
Vous avez laissé un petit film en Super 8.
Non, parce que le château en Italie... Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison.
Parce que vous aimez les fantômes. Vous les mettez souvent dans vos films.
J'ai l'impression que le cinéma permet... d'effacer un peu cette frontière entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts. Et même dans Les Amandiers, ça m'aide à convoquer les gens qui ont l'air de plus être là. Et aussi, non seulement, par exemple, Chéreau, parce que tout d'un coup, voilà, il y a un personnage joué par un acteur, Louis Garrel, je convoque Chéreau par le biais d'un acteur, mais aussi, parfois, parce que je fais vraiment venir le fantôme en face de moi. Et c'est très, très joyeux, très, très gai.
C'est le mot qui revient le plus, joyeux. Et là, je vous pose une question qui a l'air de s'y opposer, mais je ne suis pas si sûre. Quel est votre rapport aux morts, à vos morts ?
Bah, ça, un peu, j'aime les sentir, enfin, sentir qu'il y a un regard sur moi, qu'il y a une possible communication. Je le sens souvent dans le travail, quand je travaille, plus que dans la vie.
Comment ?
Bah, voilà, en écrivant un rôle où je parle de quelqu'un qui est plus là, en écrivant une scène avec un fantôme, voilà, là je sens vraiment que c'est comme un endroit de communication avec les morts, le travail, pour moi.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Valeria Bruni Tedeschi, avant de parler du film de Pietro Marcello, parlons de votre rapport à l'Italie. Vous êtes née à Turin, vous êtes partie d'Italie à 9 ans. Votre famille a fui les Brigades Rouges, vous avez étudié au lycée italien de Paris. Comment s'est passé l'apprentissage du français ?
Ah, ben j'avais des très bons professeurs à l'école italienne, très très bons professeurs, qui ont fait que j'ai pu sortir de l'école, avoir mon bac italien et aller en Hippocagne et me sentir... voilà, comme les autres. C'était très excitant, le français à l'école italienne. Mais toute l'école, j'ai beaucoup aimé l'école. Moi, j'aime beaucoup aller à l'école. Je me disais, mais quelle chance que j'ai. Je crois que je suis une des seules au monde qui aime aller à l'école.
Est-ce que vous êtes aussi à l'aise en italien qu'en français ?
Je suis plus à l'aise en français, dans le sens que le français peut être un peu plus la langue sociale pour moi. Et un peu plus hypocrite aussi. Alors que l'italien, c'est une langue plus intime et où je suis, oui, un peu plus, peut-être plus vrai.
Eleonora Duse, la divina creatura che il destino ha scelto per riscattare l'Italia.
Eleonora Duse, l'ottava meraviglia del mondo nuovo che è qui per noi.
Viva Eleonora!
Sarebbe bello rivederla a teatro.
Non so, non so neanche più se sono un'attrice.
Non hai bisogno di tornare in quel mondo di peccatori. Si vogliono approfittare di te.
Voglio ricominciare da dove ho lasciato.
Ma il futuro è del cinematografo, eh. Il teatro è morto.
Ma io sono viva!
On vous entend, Valeria Bruni Tedeschi, dans la bande-annonce d'Eleonora Duse de Pietro Marcello. Qui
vous
n'avait...
le dites bien.
Ah bon, vous trouvez?
Oui, ça va, vraiment.
Pietro Marcello ou Eleonora Duse?
Brava, encore mieux.
J'ai fait un effort. Alors, Pietro Marcello n'avait que vous comme choix pour ce rôle. C'est l'équivalent d'une Sarah Bernard italienne. Elle se fréquentait d'ailleurs. Mmh. Est-ce que vous vous êtes documentée pour ce rôle et qui était-elle?
Bah, déjà, moi, je la connaissais par ma coach de IA quand j'étais jeune, qui était membre de l'Actor Studio et qui nous faisait travailler la méthode de Strasberg et qui était une fan, adoratrice de la Duse, comme beaucoup de gens de l'Actor Studio. Et comme Strasberg lui-même, qui avait décelé dans la Duse, qui avait vu dans la Duse le fait qu'elle était... qui avait compris que la Duse était le précurseur du jeu moderne de l'acteur. C'est-à-dire... du non-jeu. Et donc moi, quand Pietro m'a proposé le rôle, je me suis sentie reliée à Géraldine, à ma coach, qui était morte, qui est morte depuis 15 ans, et je me suis dit, voilà, je vais travailler avec elle. Une autre façon pour moi de convoquer les morts, c'est en travaillant, en convoquant vraiment, par exemple là, en faisant des réunions avec elle, pour parler de mes problèmes pour faire ce film ou de mes envies, enfin voilà, pour
vous
discuter.
Parler à voix haute avec les
oui,
morts.
Oui, je parle à voix haute, je mets même une chaise, je voilà, et aussi je me suis documentée, j'ai lu une biographie magnifique sur la Duse et de ses lettres à Enriqueta, à sa fille, et elle aussi, je l'ai convoquée, j'ai discuté comme une amie, nouvelle amie, voilà, une nouvelle amie. On la connaît pas, on rencontre quelqu'un dans un train, on le connaît pas, mais on devient bizarrement très intime. Et voilà comment j'ai travaillé un peu.
J'ai appris qu'elle n'avait jamais séjourné plus de 40 jours au même endroit, oui. Qu'elle était toujours sur le départ. Oui. Est-ce que vous pourriez vivre comme elle ?
Non, je suis pas une grande voyageuse. Et c'est ça mon problème un peu avec le théâtre, c'est les tournées. Ça me met de l'anxiété. Et puis j'aime bien, à la différence d'elle, j'aime vraiment être avec mes enfants, dormir sous le même toit que mes enfants. Et voilà.
Vous pourriez justement dire un mot des rapports qu'elle entretient avec sa fille, parce qu'ils sont assez ambivalents.
Oui, au départ, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit à Pietro, il faut que tu regardes le documentaire fait par la fille de Martha Argerich, c'est pareil, il n'y avait que la musique. Mais après, je me suis rendu compte que, déjà, je sais pas quels sont les rapports de Martha Argerich avec ses filles en vrai. C'est le film de sa fille qui parle. Mais en plus, je me suis rendu compte que au lieu, elle avait un grand amour pour sa fille. Elle était obsédée par sa fille. Elle a écrit des milliers de lettres à sa fille. Mais c'était bien quand elle était loin. Quand elle était proche, elle se sentait jugée et pas aimée comme artiste. Pas acceptée dans son être artiste. Et donc, elle n'arrivait pas à être intime face à elle. Et c'était une vraie douleur, un vrai conflit intérieur pour elle.
Il y a aussi une ambivalence dans son rapport à Gabriele D'Annunzio.
Ambivalence, je ne sais pas, parce que là, le film, c'est quand l'histoire d'amour, disons, est finie et il reste ce qui reste après, c'est-à-dire l'amitié, le... je ne sais pas si elle est très ambivalente.
Bah, elle le
l'aime.
Fuit au début, elle le maudit, puis elle retourne
le
voir quand
un
elle
peu.
Est en
disgrâce. Elle se moque un peu, parce que lui continue à lui faire la cour, alors qu'elle sait très bien qu'il a 40 000 autres filles. Donc elle a dépassé le moment de... Elle a été très amoureuse de lui, très amoureuse. Elle a beaucoup souffert quand il l'a quittée. Et puis ensuite, elle s'en est remise. Donc, elle se moque un peu de lui quand il lui fait la cour. Mais elle reste amie, elle reste attachée, elle reste liée aussi artistiquement à lui.
Elle a repris sa carrière après 12 ans sans être montée sur scène. Oui. Est-ce que vous pourriez faire comme elle ?
Oui, s'il y avait des raisons de... Je ne pense pas qu'elle a arrêté de travailler. Je pense qu'elle a continué à écrire des lettres. Et c'est du travail aussi. Je pense qu'elle a fait un film, enfin, elle a fait un film, Cenere, un court-métrage. Et elle a beaucoup étudié le cinéma. Elle allait presque tous les jours au cinéma. Elle voulait refaire, elle, réaliser un autre film de La Dame de la Mer d'Ibsen qu'elle n'a pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un artiste arrête le travail qui se voit qu'il arrête de travailler lui-même.
On la voit d'ailleurs jouer la Dame de la Mer d'Ibsen dans le film. Pour cette héroïne, la volonté est tout. Est-ce que vous le pensez aussi, qu'on peut tout réussir avec la volonté ?
Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut un peu...
De chance.
Un peu l'aide de Dieu, oui.
Alors, elle est malade, elle a la tuberculose. Et ces crises se déclenchent quand elle a des émotions très fortes. Je ne vais pas dévoiler pourquoi elle a des émotions très fortes.
Ouais.
Mais vous, êtes-vous une grande émotive ? Est-ce que vous somatisez ?
Comme je suis une très émotive et que je pleure, je crie, je ris, je mets dehors, je ne somatise pas trop, parce que ça sort. Mais parfois, je somatise quand même, disons, un peu quand même. Et je trouve que c'est toujours très intéressant de se poser la question que posait Grodeck, qui était ce grand psychosomaticien de l'époque de Freud que j'adore, et qui demandait à ses patients, quand ils arrivaient avec une migraine chronique, par exemple, il leur demandait « Dans quel but tu as la migraine ?» Et ça, cette phrase, je trouve, c'est une phrase magique.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
C'est votre choix musical, Valéria oui. Bruni Tedeschi, Barbara, dis oui. qu'on reviendra-tu.
Oui, bah, c'est de la haute, haute poésie. Et je me souviens, là aussi, je me souviens du spectacle de Pardieu quand il chante Barbara. Et je me souviens, quand on parle de convoquer les morts, que Barbara était là. Il l'a convoquée réellement. J'avais l'impression qu'il y avait lui, le pianiste, et Barbara. Et j'ai un souvenir très, très mystique de ce concert. Et elle, je l'avais déjà vue dans Lily Passion. Malheureusement, je ne l'ai jamais vue sur scène toute seule. Mais voilà, il n'y a pas une fois où j'écoute ses chansons, où je ne suis pas bouleversée par la beauté des mots et par sa pureté.
Oh, allez, si, allez, la douce.
Qui?
Eleonora Duse, la più grande attrice del teatro italiano.
Davvero? E chi la conosce?
E pensare che senza di me anche questo pezzo finiva al macero, distrutto, annullato per sempre.
1953, La Valigia dei Sogni de Luigi Comencini, film consacré à Eleonora Duse, dont on parle ce soir.
Vous l'avez vu ? Je connaissais pas, non.
C'est vrai ?
Non.
Oh, formidable.
Waouh.
Eh ben,
je vais le regarder.
Ah bah chouette. Vous l'interprétez chez Pietro Marcello. On apprend dedans qu'elle a le même médecin que Mussolini. Et tout à l'heure, vous parliez d'une méthode de jeu. Il y a une scène, d'ailleurs, c'est quand vous jouez, il me semble, Ibsen.
Oui.
Il y a une scène où vous êtes avec une actrice et toutes les deux, vous êtes dans un état de tristesse et de rage très très profond. Et je voulais savoir, moi qui ne connais rien au jeu, comment on se met dans un tel état ? Est-ce que vous pensez à quelque chose de précis ? Est-ce
non,
que ça passe par
là,
le corps ?
C'est une scène, je pense que vous parlez de la scène où je dirige un peu la jeune
oui,
actrice.
Oui, parce qu'elle que ne donne pas assez
faut dire
d'émotion.
Que Eleonora Duse était vraiment, c'était vraiment une femme, par exemple, c'est la première metteuse en scène femme. C'est une grande, grande féministe. Et grande, très, femme très libre. Qui, donc ça, c'est très important. C'était très important pour moi, cette liberté de parce que la liberté est importante pour moi. Et là, dans cette scène, Pietro m'a dit, utilise le fait que c'est une metteuse en scène et tu es une metteuse en scène, et vas-y, dirige-la. Et donc, j'ai essayé de la diriger un peu comme quand moi, je dirige. J'ai dirigé, par exemple, les jeunes acteurs des Amandiers, en utilisant un peu la méthode de Strasberg, c'est-à-dire qui est de se souvenir, de trouver une émotion en se souvenant, en ayant des souvenirs très, très précis et très physiques. C'est-à-dire, ce jour-là où ta mère est morte, quel temps il faisait, comment était le sol, où tu étais assise, quelle couleur était le canapé où tu étais. Des choses vraiment de plus en plus précises et la précision amène une émotion comme si elle ressurgissait du passé, grâce à la mémoire sensorielle.
Vous venez d'évoquer la liberté, justement, il y a un leitmotiv dans le film que vous répétez en tant que Eleonora
oui,
Duse,
oui.
libre, responsable,
oui.
quel changement
oui. Comment libera et responsable. Oui.
Comment vous l'entendez ça, quel changement?
Ben, c'est la dame de la mer qui change. Qui se libère, qui trouve sa liberté et le fait d'être responsable d'elle-même. C'est un personnage. De toute façon, les personnages d'Ibsen, c'est les femmes d'Ibsen, sont des femmes voilà, qui trouvent leur liberté. Maison de poupée. Et donc, ces deux mots me semblent aussi. En même temps, ils m'ont porté tout le film parce que déjà, ils sont en moi. Dans la vie, et ils sont un peu antinomiques. Parce que parfois, par exemple, c'est dur d'être à la fois libre et à la fois responsable. Je trouve j'aime les deux, mais c'est difficile de ressentir les deux. Par exemple, avec les enfants, c'est difficile d'être libre. Parce que les enfants ne sont pas très contents si vous êtes trop libre. Et en même temps, il faut être responsable. Et en même temps, il faut être libre. Donc, je vais de l'un à l'autre. Et j'ai utilisé ce conflit pour comme de l'essence dans une voiture.
Ça m'a fait penser à une phrase d'une de vos interviews où vous dites « Je suis féministe depuis que j'ai 7 ans, je mène depuis toujours la vie d'une femme libre et indépendante. L'adoption de mes enfants, le choix d'être réalisatrice à une époque où il y en avait peu, le désir de ne travailler au départ presque qu'avec des femmes, de ne pas tomber dans le cliché de l'actrice sexy. »
Et maintenant de jouer avec l'âge sans m'en soucier.
Quel est votre rapport à l'âge ?
Bah, ça, par exemple, j'aime jouer avec l'âge.
Vous avez été vieillie dans le film.
Vieillie dans ce film, vieillie dans un autre film, une série de Valeria Golino, L'art de la joie, qui est un film magnifique.
D'après le livre de Sapienza.
Ouais, de Gugliare da Sapienza. Et puis aussi dans un autre film. Enfin, j'aime jouer, mais j'ai été une très vieille dame dans une mise en scène de Vincent Pérez pendant l'école de Wojtek, et je jouais le rôle de la vieille grand-mère, et j'ai adoré. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup jouer le rôle d'une petite fille, donc toute petite fille de 12 ans ou de 4 ans, je ne sais pas. Et en tout cas, pour parler du féminisme, il a vraiment pris son essor avec un livre magnifique que j'ai lu quand j'étais petite, qui s'appelle « Du côté des petites filles ». Une psychologue italienne de la parte delle bambine. Je me souviens que j'étais vraiment petite, j'avais 10, 11 ans comme ça. Et ce livre m'a. Parce qu'il déconstruisait toutes les habitudes, tous les clichés. Je me souviens, il parlait de la chambre rose qu'on faisait pour les petites filles, de la chambre bleue. Et tout ça, c'est la première fois que quelqu'un déconstruisait un système en place.
Wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. I'm the dude. You know, that or his dudeness or duder or, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing.
Are you employed, Mr. Lebowski?
Ah! Employed?
Do you like sex, Mr. Lebowski?
Is this your only ID?
You got the wrong guy. I'm the dude.
Your name's Lebowski, Lebowski.
Jeff Lebowski, the other Lebowski, the millionaire.
Say, dude, where is your car?
Who's got your undies, Walter?
J'aime bien partager avec les auditeurs le goût des invités à la fin de l'émission. Là, on entend The Big Lebowski, un chef-d'œuvre sorti en 98 des frères Cohen, que je crois que vous admirez beaucoup, Valeria Bruni-Tedeschi.
Oui, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup le cinéma indépendant américain. Et oui, j'aime beaucoup.
Vous avez d'autres films ou livres que vous aimeriez recommander aux auditeurs ?
Mais là, je crois qu'il y a un film il y a longtemps, In the Soup, qui vient de sortir.
Un film de soupe ?
In the Soup.
Ah, pardon.
In the Soup. c'est un film, je ne me souviens plus, d'Alexandre Rockwell. Et c'est un film des années... je ne me souviens plus, 96, je crois, et qui vient de ressortir en ce moment.
Extrait des Noces de Figaro de Mozart, interprété par Sandrine Pio. Valeria Bruni-Tedeschi, je voulais qu'on finisse en musique parce que je sais qu'elle est très importante pour vous et que Mozart fait partie de vos remèdes à la mélancolie comme Woody Allen.
Oui, j'aime beaucoup Mozart depuis... j'ai eu mon premier coup de foudre sur un opéra sur Don Juan, donc c'est la musique de l'amour, la musique de... c'est très romanesque et puis il y a cette chose que c'est à la fois tragique et drôle et léger.
Comme vous ?
J'aimerais bien, ça me ferait. J'aimerais bien. Si vous dites, je peux pas le dire moi, mais si vous le dites, ça me fait plaisir.
Il semble. Je ne vous connais pas, mais il le semble. Merci beaucoup, Valeria Bruni-Tedeschi.
Vraiment.
Je rappelle que le film Eleonora 12 et de Pietro Marcello est en salle depuis ce matin. Et à signaler aussi Céline Villegas, la programmatrice de l'émission, qui est aussi une grande photographe, expose ses clichés aux côtés de deux autres artistes à la Maison des Arts de Créteil jusqu'au 1er mars. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Philippe Duclos.